Dandy décalé, moustache et cheveux longs, lunettes fumées bleues, Christophe se définissait lui-même comme beau, bizarre. C'était d'ailleurs le titre d'un de ses albums. Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, a succombé à une maladie pulmonaire, un emphysème selon son épouse. Il avait 74 ans, il avait été hospitalisé à Paris le 26 mars dernier, placé en réanimation, puis transféré à Brest, où il était intubé et placé dans le coma. C'est donc son épouse qui a annoncé sa mort dans la nuit. Christophe aimait la nuit. Vivait la nuit. Il aimait aussi le jeu, le poker et les voitures rapides. Il aimait jouer avec le son, toujours dans l'air du temps, une aura intacte au fil des années. Son timbre de voix si particulier a plu au public dès ses débuts, au milieu des années 60. Isabelle Pasquier.
Et j'ai crié, crié.
Quand la France chante Aline, Christophe a 20 ans. Le beau bizarre qu'il deviendra est une star yéyé. Mais voilà, le chanteur Aminette claque la porte de chez Barclay, car il se rêve en peintre du son, sa vraie passion, le son qu'il crée avec des machines qui hantent ses nuits bleues. Sa voix blanche, il la sculpte avec des réverbérations, des synthés. Première métamorphose en 72, avec les Paradis perdus, puis les mots bleus, influencés par le rock anglo-saxon et une collaboration avec Jean-Michel Jarre. En 78, l'album Le Beau Bizarre sonne rock. Après des trous noirs et une vie de nuit blanche aux commandes de ses machines, en 96, sorti de Bevilacqua avec son idole, le chanteur punk Alan Vega. En 2016, ses Vestiges du chaos, adulé par la presse rock branchée. Et pour donner une nouvelle vie à ses chansons, Christophe s'offre des duos avec Catherine, Juliette Armanet ou encore Jeanne Haddad. Loin, très loin du crooner yéyé, Christophe est devenu un artiste culte, libre, insaisissable, comme l'oiseau tatoué sur son bras gauche.
À l'occasion justement de la sortie de son album « Vestiges du chaos » en 2016, Christophe avait répondu aux questions d'Augustin Trapenard sur Inter. Le chanteur avait alors évoqué son rapport si particulier au temps.
Quand j'avais 20 ans, en 65, j'ai fait Aline, j'ai fait les marionnettes, tout ça, c'était un truc, c'était pas, j'ai tout de suite senti que c'était pas la direction un peu trop formatée qui m'intéressait. En 71 sont arrivés les synthétiseurs, et là, je me suis dit, ça y est, là, je suis en train de choper... ma palette sonore, et donc je vais commencer à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire.
Les sons, vous les archivez, vous les ressuscitez, vous les remettez au goût du jour, passé, présent, futur, j'ai l'impression que tout se mélange. Est-ce que le temps a encore un petit peu de prise sur vous?
Je sais qu'il passe très très vite, parce que effectivement, comme je suis très très passionné par toute la technologie qui évolue vachement du côté de tout ce que j'aime, là, donc ça, faut dire que les nuits passent vite, les jours passent vite, tout passe vite, quoi. Et
si ça se trouve, vous êtes immortel, Christophe.
Peut-être, ouais. Je peux pas vous dire du coup. L'avenir nous le dira.
Immortel dans ses chansons, c'est certain. Nous aurons l'occasion d'en réentendre tout au long de ce 7-9 et dès la fin du journal. Et puis, l'émission d'Augustin Trapenard est-elle à retrouver en intégralité sur franceinter.fr.
Et Rebecca Manzoni aussi, évidemment. Il est 7h05, la suite du journal Agnès, avec une nouvelle hypothèse sur l'origine de l'épidémie de Covid-19.
Et si la Chine avait menti sur toute la ligne à propos du coronavirus? Cette accusation grave vient des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe, qui s'interrogent notamment sur l'origine de la pandémie qui a fait plus de 140 000 morts dans le monde. Jusqu'ici, on pensait que le virus était apparu sur un marché d'animaux sauvages à Wuhan. La chauve-souris et le pangolin étaient montrés du doigt. Aujourd'hui, Nathanaël Charbonnier, c'est un laboratoire de Wuhan qui est au cœur des interrogations.
Et si c'était la main de l'homme qui était responsable de cette dramatique pandémie, si c'était une mauvaise manipulation d'un chercheur dans son laboratoire qui avait amené le virus à quitter son tube à essai pour se répandre sur la planète? Ce mauvais scénario de film catastrophe, c'est celui qui est évoqué maintenant par les Américains, que réfutent les Chinois, mais auquel le président français Emmanuel Macron ne semble pas insensible. Dans une interview au Financial Times, il explique qu'il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Enfin, qu'on ne sait pas peut-être, mais dont certains se doutaient depuis pas mal de temps. Car des insuffisances en matière de sécurité dans un laboratoire de la région avaient été signalées il y a 2 ans par l'ambassade des États-Unis à Pékin, révèle le Washington Post. Se posent alors d'autres questions. Que se serait-il passé si la dictature chinoise n'avait pas menti et caché ces informations? Tous semblent penser aujourd'hui qu'alors, des vies auraient pu être sauvées.
La Chine accusée également de sous-estimer sciemment le nombre de morts et de contaminations. Hasard ou pas, les autorités de Yuran viennent d'ailleurs ce matin de réviser à la hausse le bilan de la pandémie en annonçant 1300 décès supplémentaires, portant le bilan global à 4632 morts pour le pays le plus peuplé du monde, quand les États-Unis affichent un bilan de plus de 33 000 morts. Donald Trump reste focalisé sur la reprise de l'économie. Le président américain a dévoilé un plan en trois phases qui laisse en fait les gouverneurs décider du calendrier de la reprise de l'activité dans leur état. Ce n'est pas un plan, c'est à peine un PowerPoint, a tweeté un élu démocrate proche de Joe Biden. Nous reviendrons en détail sur ce plan américain dans le journal de 8 heures. Le bilan en France, avec près de 18 000 morts, 11 000 à l'hôpital, près de 7 000 dans les établissements accueillant des personnes âgées. Mais le nombre de patients hospitalisés et malades en réanimation continue de baisser. 209 lits libérés en réa au cours des dernières 24 heures. Le virus continue de circuler, estime Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, mais les signes encourageants sont bien réels.
Il reste encore une situation totalement anormale. Plus de 6 000 patients en réanimation. Le maximum de la réanimation en France en janvier et tous les ans, c'est 5 000. Donc on est vraiment dans une situation totalement exceptionnelle. L'épidémie reste très dynamique. Je vous ai donné le nombre de patients qui arrivent à l'hôpital tous les jours, 1 800. C'est quand même considérable, et les centaines de patients qui arrivent en réanimation. Donc les patients qui arrivent à l'hôpital sont très nombreux, les patients qui arrivent en réanimation restent très nombreux. Nous sommes, entre guillemets, soutenus par un nombre important de sorties, tant mieux, mais l'activité hospitalière reste anormale et le nombre de lits de réanimation reste très élevé. Donc on est plutôt sur un plateau qui évolue doucement vers une décroissance, tant mieux, mais ce n'est pas la chute observée parfois après des pics épidémiques avec une dégringolade rapide du nombre de cas. Malheureusement, on n'est pas devant cette situation de pic, on est plutôt devant une situation de plateau lentement décroissant, et c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, la cinétique n'est pas celle qui est sous-entendue par le terme pic.
Jérôme Salomon, lors du point presse quotidien hier soir, il faut donc continuer à respecter les mesures de confinement. Lors de son audition devant les sénateurs hier, le ministre de l'Intérieur a révélé que 1733 personnes avaient été placées en garde à vue pour ne pas avoir respecté ces mesures à trois reprises. Plus de 760 000 amendes ont été dressées pour 12,5 millions de contrôles. Mais respecter la distance sociale n'est pas toujours facile. C'est même impossible lorsque l'on vit dans une caravane de 15 mètres carrés. Sur les aires de stationnement réservées aux gens du voyage, le virus a pu se propager. C'est le cas à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Une soixantaine de personnes confinées sur leur terrain. Rémi Brécoiteau s'est rendu sur place, sur cette aire où le Covid-19 a profité de la promiscuité pour frapper ses habitants. Reportage.
Sur ce terrain, une soixantaine de personnes vit dans des caravanes presque collées les unes aux autres.
On a été touché le plein fouet. Presque tout le monde a été contaminé dans le terrain.
Ici, le coronavirus a tué un membre de la communauté, le cousin d'Émile Schetz de l'association familiale des gens du voyage d'Île-de-France.
Et moi, j'ai été élevé avec mon cousin. Là. On s'est pratiquement jamais quitté. C'est un frère, n'a pas commencé. C'est une catastrophe.
Une catastrophe accélérée sans doute par la promiscuité.
Ça, c'est ma caravane.
Comme beaucoup, Louis, le frère d'Émile, a contracté le Covid-19.
Moi, j'étais malade. 10 jours couché, moi. J'ai mon fils qui est malade, là. Mais il va un peu mieux, il a 35 ans. Il suffit un qu'il l'a, c'est fini. On est obligé de se côtoyer. Vous avez vu, vous avez fait le tour. Là. On est trop serré, on est trop collé, vous voyez bien. J'ai mon neveu, il est là, il vit avec sa famille, à 3 mètres collé sur moi. Regardez, les toilettes, ils sont là. C'est des toilettes pour toute la communauté. Il faut sceptique, en plus, ça se bouge, ça déborde. Ils sont à 2 mètres 50 de ma caravane.
D'autant que le terrain a accueilli 3 familles supplémentaires au début du confinement. Jean-Paul Schetz, le 3e de la fratrie, a quitté une aire occupée illégalement.
C'est pas confiné, ça. Ils auraient pu nous donner un grand parking, qu'on puisse se mettre. Bien espacé. Là, on est confinés l'un sur les autres, parqués comme des bâtons.
Et pour Émile Schetz, si les aires d'accueil débordent, c'est que la pression reste forte sur les terrains illicites.
On ne doit pas les expulser, vu le confinement. Il y en a qui se sont fait expulser quand même.
Et il s'inquiète aussi pour l'avenir. Beaucoup ici sont commerçants ou artisans indépendants, sans revenus depuis un mois.
Reportage de Rémi Brancato. Et pour se protéger du virus, le masque reste un élément essentiel. Dans son intervention lundi soir, Emmanuel Macron a parlé de masques grand public dont devront s'équiper les Français pour sortir de chez eux. Encore faut-il qu'il y ait un stock suffisant. Les lignes de fabrication tournent à plein régime. Fabien Cazot.
Depuis le 30 mars, la production de masques dit grand public est en constante augmentation. 4 millions la semaine dernière, 7 cette semaine, sans doute plus de 10 la semaine prochaine. Il y a en tout une centaine d'entreprises à ce jour qui se sont lancées. Le processus d'homologation est très strict. Ces industriels doivent d'abord fabriquer des prototypes sur la base des recommandations des autorités sanitaires. Les masques sont ensuite testés en laboratoire par la Direction Générale de l'Armement. On leur y fait passer toute une série de tests, y compris celui de la machine à laver à 30 ou 60 degrés, puisque les masques grand public devront être réutilisables. L'épreuve du séchage et même du repassage, le faire à plus de 100 degrés, peut avoir pour effet de resserrer les mailles textiles et donc d'augmenter l'efficacité du masque. Les défauts constatés sont signalés aux industriels, coutures mal placées, deuxième couche textile insuffisante, et ce n'est qu'après avoir procédé aux corrections demandées que les industriels peuvent démarrer la production. Deux questions demeurent à ce stade. Comment ces masques seront-ils distribués au grand public et faudra-t-il les estampiller d'un logo officiel pour rassurer sur leur efficacité? Ces points sont actuellement en discussion entre le ministère de l'économie et Matignon.
Et puis pour se protéger du virus, le plafond du paiement sans contact va également être relevé à partir du 11 mai. Le plafond va passer de 30 euros actuellement à 50 euros. En bref, L'Oréal annonce ne pas recourir au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de juin, malgré l'arrêt de certaines activités du groupe cosmétique. Le marché du maquillage est en baisse, mais les ventes de teintures pour cheveux sont en forte hausse. Le conseil de L'Oréal se réunira le mois prochain pour arrêter sa position en matière de versement de dividendes aux actionnaires. Et en cette période d'épidémie et de confinement où tout rassemblement est interdit, comment maintenir une activité militante? C'est un défi pour les partis politiques. Jean-Luc Mélenchon, l'homme à l'hologramme, organise ce soir un meeting en ligne pour la France insoumise. Et ce sont, Laurence Perron, tous les partis politiques qui tentent de s'y mettre.
Un petit bout de verdure constellé de...
Laurence Perron, pour les partis qui tentent de se mettre à l'activité militante via Internet. Un reportage que nous entendrons dans une prochaine édition.
Et pour refermer ce journal, donc Agnès, retour sur la mort apprise hier du chanteur Christophe.
Pas de long discours futile, mais des formules que le chanteur savait trouver, comme le titre de cet album, le plus personnel sans doute, Beau Bizarre, c'était en 1978. Musique.
Danse, dancing sans danseur, sous la boule ronde, parfums, lumières et couleurs qui se répondent. Je suis le beau bizarre venu là par hasard. L'alcool a un goût amer. Le jour, c'était hier. Mais l'orchestre dans un habit un peu passé joue le vide de ma vie désintégrée. Si j'ai ma veste noire, ce n'est pas par hasard. C'est la couleur que je préfère, le blanc, c'était hier.
Titre de Christophe en 1978. Christophe qui est mort hier d'une maladie pulmonaire. Il avait 74 ans.
Merci Agnès Soubiran.